16h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Comme chaque jour, nous sommes ensemble jusqu'à 16h et je suis ravi de finir cette semaine avec vous et en compagnie de ma camarade Ombline. Comment allez-vous ma chère?
Ça va très bien, bonjour Olivier, bonjour à tous.
Bonjour, 7h, c'est la vôtre, nous parlons de votre vie, de votre histoire, car votre vécu nous intéresse. Fumer en cachette, dissimuler un tatouage ou une passion, cacher une relation amoureuse, toutes sortes de cachotteries que connaissent bien les adolescents, mais pas que eux. Car à 30, 40 ans ou 50 ans, certains adultes ont encore du mal à avouer certains aspects de leur vie à leurs parents. Pendant l'enfance et l'adolescence, les parents sont ceux qui ont transmis des croyances et des principes et qui ont imposé leurs règles et formulé limites et interdits. Et si avec l'âge adulte, on prend de l'indépendance et de la liberté, il arrive que la peur de décevoir persiste et conduise au mensonge et au non-dit. Faut-il tout dire à ses parents? Comment assumer notre choix et s'affirmer face à eux? Adultes, ils cachent encore des choses à leurs parents. C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
Et chaque après-midi, on vous écoute au 39-21, 50 centimes la minute. C'est le standard d'Europe 1. Pour nous écrire, si vous préférez, n'hésitez pas à poser vos questions aussi sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Maggie sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Maggie.
Oui, bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Maggie?
Alors, je vais avoir 50 ans à la fin du mois et j'appelle du Gard, de Nîmes.
D'accord. Alors, lorsque vous étiez adolescente, vous avez commencé à fumer régulièrement, Maggie. Vous dites que dans votre famille, une jeune fille qui fume, c'était très mal vu. Expliquez-moi pourquoi.
Oh, ben parce que je suis issue d'une famille portugaise.
Oui.
Et que ben, les coutumes, la fille ne doit pas fumer, ne doit pas boire, ne doit pas sortir, doit s'habiller d'une certaine façon, etc. etc.
Oui.
Et on a grandi, on a été éduqués sous cette image-là. Du coup, voilà, c'est les mentalités. Aujourd'hui, elles sont moins, mais c'était les mentalités portugaises de l'époque. Quoi. Il fallait montrer une belle image, il fallait être une belle image. Pas que la montrer, il fallait être une belle image.
Et cette belle image que vous représentez, à l'époque où vous étiez adolescente, eh bien, fumée. Et un jour, votre mère vous a surprise une cigarette à la main. Quelle a été sa réaction?
Ah ben, elle a été très, très en colère. On n'était pas des filles sérieuses, je dis on parce que j'étais avec une sœur d'un an plus vieille que moi, avec moi. On n'était pas des filles sérieuses, c'était pas beau, l'image qu'on véhiculait, c'était pas sérieux, etc., etc. On a été punis, hein, comme tous les ados qui se font punir. Hein.
Oui. Et vous, quelle a été votre réaction lorsqu'elle vous a attrapé parce que vous avez dû avoir une peur bleue, non?
Ben, bleu, oui, aussi, une peur bleue, oui, et surtout le fait de l'avoir déçu.
Oui, c'est surtout ça, oui.
Parce que voilà, on a ce truc, on est éduqué, elle essaye de bien nous éduquer, elle nous a inculqué, elle nous a donné une éducation stricte et belle et des valeurs et tout ça. Et nous, on arrive avec une bêtise, hop, on fume une cigarette et du coup, on casse cette image, quoi. On se dit mince, qu'est-ce qu'on est, quoi.
Mm-hmm.
Alors c'est vrai qu'à l'âge de l'adolescence, on se remet en question, on se dit qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis pas une fille sérieuse? Est-ce que si? Est-ce que mi? Et puis après, en grandissant, on se rend compte que finalement, ben, c'est une culture et que les gens de cette culture y pensent comme ça, mais que c'est pas forcément la réalité, quoi.
Mmh. Bah, en tout cas, vous avez continué à fumer, hein, puisque,
oui, malheureusement.
Mais toujours en cachette.
Toujours.
Comme beaucoup d'ados. C'était une question de respect pour vous de ne pas fumer devant elle ensuite?
Oui, parce qu'elle aimait pas ça, ça l'a blessée, elle était déçue. Et puis de voir le souci, entre guillemets, qu'on lui a donné quand elle a appris qu'on fumait, elle était dévastée. Elle était vraiment, elle était vraiment dévastée. Elle s'est dit non, mon Dieu, pas mes filles, quoi. Et du coup, j'ai eu un blocage. Je n'ai jamais pu, à l'âge adulte encore, je n'ai jamais pu lui dire que je fumais, quoi.
Oui, oui. J'ai une amie très proche qui approche la cinquantaine, hein, et qui cache toujours à sa mère aujourd'hui qu'elle fume. C'est quelque chose qui reste, hein, ancré. On n'a pas envie, en fait, que le regard de sa mère ou de son père change. C'est un peu ça.
Oui, et c'est bien souvent, c'est inconscient. Hein. On se dit non, je peux pas, j'ose pas. C'est vraiment le truc. J'osais pas. Je voulais pas la blesser. Je voulais pas la lui faire de peine. Ben, comme tous les enfants, on aime tellement sa mère, on veut être la bonne image aux yeux de ses parents, C'est bien plus tard, après, en grandissant, que je me suis dit, parce qu'on vient en faire, hein, à côté de ça, quand on devient adulte et qu'on cache encore à sa maman qu'on fume, c'est vrai qu'on est un peu infantilisé. C'est usant. À la longue, c'est usant. Trouver des prétextes.
C'est assez usant, hein, parce que vous avez mis de nombreuses stratégies, de stratagèmes en place pour qu'elle ne découvre rien quand vous avez continué de fumer à l'âge adulte.
C'est ça.
Alors racontez-moi, quel type de stratégie vous mettiez en place ?
Alors c'était difficile parce que des fois je l'avais plusieurs jours à la maison, alors vous vous rendez compte ?
Ouais.
Plusieurs jours sans fumer, c'est même pas possible.
Ben ouais.
C'était n'importe quoi, c'était aller faire une course dans le village, c'était aller à la boîte aux lettres chercher du courrier, c'était étendre le linge derrière dans le jardin, toujours à fumer une cigarette, se planquer dans le garage pour aller fumer une cigarette, à fumer vite. Elles sont mauvaises en plus, celles qu'on fume comme ça, dans le stress, dans faire attention, hop, on attend si elle arrive pas, on fait attention de se laver les mains, d'aller se laver un coup les dents pour pas sentir.
Ben oui.
C'est usant, c'est une horreur, Et un jour, j'ai été fatiguée de ça, donc dans une discussion, un jour, je l'ai chopé, je lui ai dit, voilà, quoi, j'avais une quarantaine d'années passées. Je lui ai dit, voilà, c'est comme ça, je fume. J'ai essayé de lui dire avec des pincettes, en lui disant, c'était vrai, hein, que j'avais essayé à plusieurs reprises, que j'arrivais pas à m'arrêter, que c'était difficile pour moi, que si je n'avais pas ma cigarette, j'allais tuer quelqu'un dans la rue, tellement je devenais agressive.
Ouais.
Donc, elle a compris avec tout ça, mais même comme ça, je ne pouvais pas fumer devant elle. Ce n'est pas possible.
Vous savez, c'est une question de génération, Maggie. Cette éducation qu'elle vous a donnée, elle vous regardait toujours avec ses regards de maman, son regard de maman. Et puis, elle voyait toujours sa petite fille qui, même malgré ses 40 ans, fumait. Maggie, vous restez en ligne avec nous. Nous allons voir qu'au fil du temps, c'est un sentiment de culpabilité que vous avez ressenti à force de cacher votre tabagisme à votre mère. Et puis surtout, dans la deuxième partie de cette émission, on va voir si ça vous a aidé à arrêter. A tout de suite.
Europe 1. Même adulte, on a peur de décevoir nos parents. Alors, on leur cache des choses. C'est votre histoire, vous nous la racontez au 39-21. Vous réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous échangez au 39-21 avec Olivier Delacroix. On parle des secrets qu'on a encore pour nos parents. Qu'est-ce qui vous retient ? Vous nous racontez, vous nous écrivez aussi sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et nous sommes toujours avec Maggie qui nous racontait qu'à l'adolescence, elle cachait sa consommation de cigarettes à sa maman, qu'elle s'était déjà fait prendre lors de cette adolescence, mais que plus tard, arrivée à l'âge de 40 ans, elle continuait à cacher à sa mère et qu'enfin, un jour, elle n'en pouvait plus et qu'elle l'avait avoué à sa maman. Maggie, en fait, vous dites que le fait de vous cacher était devenu un vrai poids, on l'a bien entendu. Vous pensez que ces cachotteries ont pu nuire à votre relation avec votre mère ?
Ah, complètement. Et les relations, elles sont faussées. On est sur l'instant, on est en train de discuter, j'ai une subite envie de fumer, je peux... Et bien, je lui dis, non, c'est pas possible, sur quelque chose qu'on avait prévu de faire là, dans le moment, c'est pas possible, j'ai d'autres... Et puis on tourne en rond pour trouver un prétexte pour aller s'échapper, pour fumer une cigarette, on brasse de l'air, on pense qu'à ça, on est omnibulé que par le moment où on va pas pouvoir fumer sa cigarette, quoi. Donc, ces crises de colère quand on n'a pas sa dose de nicotine, quoi, aussi. Alors, on s'en prend comme ça, on a des excès de colère et tout, alors que personne n'est coupable. C'est le coupable, c'est que celui qui n'a pas sa dose de nicotine. Donc, moi, en l'occurrence. Et tout ça, après, on se torture l'esprit, quoi. On se dit, mince, une fois qu'on a pris sa dose de nicotine, on se dit, oh, j'ai abusé, là, j'aurais pas dû crier comme ça, j'aurais pas dû m'énerver comme ça, j'aurais pas dû... Donc oui, complètement, les relations sont faussées, elles sont pas vraies. Elles sont pas vraies parce qu'on est torturé par ce manque, hein, parce que c'est une addiction. Hein,
oui, c'est ça. Ouais.
Voilà, on est focalisé complètement que là-dessus, et puis tout le reste, ça passe après, quoi.
Alors aujourd'hui, votre mère n'est plus là, Maggie. Vous avez décidé d'arrêter de fumer. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur, cela, lorsqu'elle est partie, d'arrêter ?
Oui. Oui, ça me tenait à cœur et je me suis promis le jour où elle partirait que j'essaierais de faire tout mon possible pour arrêter. Pardon.
Et vous l'avez fait, Maggie. C'est un défi difficile à relever et vous l'avez fait pourtant. Vous avez réussi. Vous avez regretté de ne pas lui avoir dit plus tôt et puis de ne pas avoir arrêté lorsqu'elle était encore là ?
Oui, complètement. Et si je peux donner un conseil à ceux qui sont dans ce cas-là, mais parlez-en, quoi. Faut pas attendre. Elle va faire la tête, la maman peut-être, ou la personne qui n'est pas au courant, elle fera la tête, elle sera peinée, mais ça va durer qu'un temps, ça passera. Tout passe dans la vie, tout. Et ça, on ne le comprend pas quand on est dans l'action.
Bien sûr.
Et il faut passer ces barrières, il faut aller au-delà. Et bien, tant pis, on est des adultes. Et il faut se dire, parce que c'est ce à quoi je pense, mais avec du retard. Donc, si je peux donner un conseil à la personne qui est dans cette situation, dites-le. Ils se fâcheront une semaine, 10 jours, 15 jours, 1 mois, c'est pas grave. C'est des choses qui passent, on les oublie. Par contre, une relation faussée toute une vie à cause de ça, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon.
Et le dire, j'ai envie de penser fortement que cela aide vraiment à arrêter de fumer, parce qu'il y a cette notion d'interdit qui nous anime lorsqu'on est adolescent, parce que je me rappelle de ma première cigarette, finalement, c'était l'interdit qui m'a poussé à fumer cette première cigarette. Et souvent, le dire à ses parents, c'est la première marche vers l'arrêt définitif de cette consommation de tabac. Merci beaucoup, Maggie, pour votre témoignage au 3921. Merci pour votre courage. Dans un instant, nous allons accueillir Catherine Zobouillan. Elle est psychologue, clinicienne et directrice du centre Cogitos Paris.
Europe 1.
Vous êtes adulte, indépendant, et pourtant vous continuez d'avoir des secrets pour vos parents. Venez nous raconter votre histoire, on vous écoute au 3921. Parce qu'on a envie qu'ils restent fiers, parce qu'on a envie de les mettre face à une vérité qui pourrait être difficile, qui pourrait peut-être les décevoir. Pourquoi vous cachez des choses à vos parents? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1 au 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Catherine Zobouillan, psychologue clinicienne et directrice du centre Cogitos Paris. Bonjour madame, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour
Olivier.
Bonjour. Pourquoi le fait d'avouer certaines choses à ses parents est parfois si difficile pour des adultes? Quelles sont les principales appréhensions?
Alors, je pense que l'appréhension est vraiment, comme dans le témoignage de Maggie, d'être ce mauvais enfant, cet enfant qui n'a pas su satisfaire les attentes du parent. Et on sent que chez Maggie, justement, sa maman avait des représentations de ce que c'était une bonne éducation, d'être de transmission et de valeur. Et quand elle franchit cet interdit, elle devient le mauvais enfant. Et donc, c'est la peur de décevoir, c'est la peur aussi d'être rejetée, de ne pas être aimée. Et il y a une vraie dépendance affective dans le rapport mère-fille. Et c'est ça qui est compliqué.
Dire que l'on est fumeur, que l'on a arrêté ses études ou que l'on divorce, cela est donc perçu visiblement comme une faute, un échec. On reste toujours à n'importe quel âge l'enfant de ses parents, en quelque sorte ?
Oui, c'est pas faux. On reste toujours l'enfant de ses parents, mais être adulte, c'est faire ses propres choix, s'affranchir aussi du regard de ses parents, et c'est vraiment s'aligner avec ce que l'on est en toute sécurité. Et quoi qu'il arrive, cette sécurité, c'est mes parents vont m'accepter comme je suis, et cela ne me préoccupe finalement pas tellement, en tout cas l'idée d'amour inconditionnel, quels que soient mes choix, quel que soit ce que je vais choisir, je vais être aimée et acceptée telle que je suis. Ça, c'est vraiment essentiel.
Le fait de ne pas avouer certains aspects de sa vie privée et de se protéger donc par la même des remontrances de ses parents, est-ce que quelque part, ça n'est pas une façon aussi de s'affirmer d'un autre côté?
On ne doit pas tout dire à ses parents, mais il y a des choses quand même assez essentielles qui vont faire que le lien est plus ou moins fort. Et on sent que pour Maggie, par exemple, le fait d'avoir caché à sa mère qu'elle fumait renvoie beaucoup à un sentiment de solitude,
de culpabilité énorme, oui.
De culpabilité, et ça alimente sa dépendance affective et un sentiment de trahison. Et c'est vrai qu'au final, ça nuit à son affirmation d'elle et de ce qu'elle est vraiment.
Oui. Oui. Ces mensonges sont généralement liés à notre enfance, hein, aux interdits que l'on a eus lorsqu'on était enfant. Cela veut dire que c'est enraciné en nous à jamais ?
Je ne dirais pas que c'est des mensonges. Je dirais que c'est plutôt un évitement.
Un évitement, oui.
Oui, un évitement pour préserver, pour protéger, plus qu'un mensonge. Et c'est vrai que finalement, chez l'adulte, ça va nuire à la révélation de ce qu'il est vraiment et de ce qu'il anime vraiment. C'est surtout ça.
Alors, quelles peuvent être les conséquences justement sur l'image que les adultes qui cachent ont d'eux-mêmes ?
Ça peut avoir des conséquences vraiment dans la vie quotidienne, sur l'affirmation de soi, sur ce qu'ils ressentent, ce qu'ils sont. Et surtout, ça alimente ce manque de confiance en eux parce qu'ils n'ont pas su l'assumer auprès des êtres chers. Et du coup, c'est comme un secret qui va les affaiblir pour aussi affirmer ce qu'ils sont dans la vie, dans leur vie.
Les empoisonner, finalement.
Oui, je pense.
On l'a vu avec Maggie, cacher quelque chose à ses parents peut devenir une source de souffrance, de regret, donc de culpabilité. Comment finir par se jeter à l'eau, justement, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui cachent un divorce, qui cachent justement une consommation d'alcool ou un tatouage ou justement le fait de fumer. Comment leur donner quelques conseils pour les inviter à dire les choses ?
C'est vraiment l'idée d'être aligné avec soi et finalement de faire confiance. Parce que, vous voyez, la maman de Maggie, au final, elle a bien entendu, elle a bien accepté et que finalement c'est les propres peurs de l'enfant, de la partie enfant de l'adulte qui vont faire qu'il va se mettre à cacher, à masquer les choses. Mais dans beaucoup de situations, les choses sont souvent acceptées, intégrées et ça fait partie de l'amour.
Oui, c'est souvent que l'on sous-estime ses parents. Lorsqu'on doit annoncer ce type de nouvelles, on va tout de suite à une situation extrême où tout de suite on les voit se prendre la tête à deux mains comme si c'était catastrophique. Or, ne sous-estimons pas l'amour justement qu'ont ses parents et la dose d'acceptation qu'ils ont quand cela nous concerne. Catherine Zobouillant, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et directrice du centre Cogitos Paris. Vous restez en ligne avec nous. Dans quelques instants, on va continuer à parler de ces petites cachotteries avec Mario, qui a caché pendant plus de 30 ans ses nombreux tatouages à son père.
Europe 1. Mais vous, qu'est-ce que vous n'avouerez jamais à vos parents des secrets que nous dissimulons encore une fois adultes, 39-21 pour nous appeler et nous vous écoutons nous faire des confidences sur Europe 1. La chanteuse de musique chrétienne contemporaine, elle est une véritable star aux États-Unis, Lauren Daigle sur Europe 1 avec You Say. On ne peut pas tout dire à ses parents, même une fois adulte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Cacher une orientation sexuelle, une maladie, son tabagisme, qu'est-ce qui vous pousse à leur mentir ? Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Et pour parler de ces petites cachotteries, nous sommes en ligne avec Mario. Bonjour Mario, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Mario ?
Je suis à Paris et j'ai 56 ans.
56 ans, ok. Donc 56 ans, vous Mario, vous êtes passionné par le tatouage depuis votre plus jeune âge. Expliquez-moi quel sens ont tous ces tatouages pour vous.
Eh bien, tous mes tatouages n'ont pas de sens. Certains ont un sens par rapport à ma jeunesse, par rapport à ma famille, par rapport à la musique que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, j'ai d'autres tatouages qui sont uniquement des ornements japonais, donc qui n'ont pas vraiment de signification.
D'accord. Alors, voilà. Donc, si ça n'a pas vraiment de signification, ça a plutôt un côté esthétique pour vous ?
Tout à fait, oui, esthétique. J'aurais du mal à vivre sans mes tatouages aujourd'hui.
D'accord. Alors, pourtant, dans votre famille, on avait une très mauvaise image des personnes tatouées. Que disaient vos parents de ces personnes qui se tatouaient partout ?
C'était plutôt mon père.
Plutôt votre papa, père, d'accord.
Voilà.
Plutôt votre père.
C'est ça. Il ne supportait pas le tatouage. Pour lui, c'était signe de délinquance, signe de prison. Et voilà, ouais. Quoi.
C'est vrai que le tatouage a longtemps eu cette signification de voyou, de délinquant et de prison. Pourquoi la prison, d'ailleurs ?
Bah, parce que les prisonniers se tatouaient mutuellement en prison avec de l'encre de chine ou avec de la semelle de chaussures qu'ils faisaient brûler avec des aiguilles.
D'accord.
Ils arrivaient à se marquer la peau. Mmh.
Alors, votre mère, à l'époque, a fini par découvrir que vous vous tatouiez. Ouais. Elle avait très peur de la réaction de votre père. Vous imaginiez qu'il réagirait comment, votre père ?
Quand j'étais adolescent, j'avais peur de prendre une bonne volée, surtout. Et voilà, c'était ça. Mon père était pas spécialement violent, mais quand il était en colère, il fallait se méfier. Donc, je cachais mes tatouages de peur de mon père.
Alors,
et ensuite,
oui.
Et
les années ont passé ensuite.
Voilà, les années ont passé. Quand j'étais un peu plus, quand j'avais une vingtaine d'années, je les cachais plutôt par respect.
Oui.
Par respect, et plus je vieillissais, ben je les cachais parce que je me disais, ben aujourd'hui, ça ne sert à rien de lui faire de la peine. J'avais peur de lui faire du mal, en fait.
Oui.
Voilà, j'avais peur. Voilà, et j'ai caché comme ça toute une bonne partie de ma vie.
30 ans passés à faire en sorte que vos œuvres d'art, comme vous les appelez, ne soient pas découvertes par votre père. Vous avez fini par lui avouer. Racontez-moi comment cela s'est passé.
Alors j'avais un problème de gorge, j'avais pas plus la voix, j'avais pratiquement plus de voix pendant plusieurs mois. Je suis allé voir un spécialiste qui m'a fait faire des examens et m'a dit ensuite qu'il allait m'opérer et peut-être que j'avais un cancer de la gorge et peut-être qu'il allait tout gratter à l'intérieur, j'avais peut-être plus de cordes vocales. Et mon père avait très peur, mes parents bien sûr étaient au courant de cette intervention. Et une fois que l'intervention est passée, que bien sûr je n'ai rien eu de mauvais, je me suis dit il faut que je lui demande ça, qu'il faut que je lui avoue, il faut que je lui dise. C'était vraiment un fardeau très très lourd. C'était le seul secret que j'avais pour mon père en fait.
Oui, le seul secret, le seul.
Ouais, absolument, le seul secret.
Alors aujourd'hui vos filles sont tatouées, votre épouse aussi. Comment réagit votre père ? Je crois que lui-même a une petite idée en tête.
Alors, oui, mes enfants sont tatoués, ma femme. J'ai aussi un gendre qui est tatoueur, qui travaille chez Tintin.
D'accord.
Donc,
Tintin qui
donc,
est vraiment le maître du tatouage en France hein, et qui a beaucoup fait pour le tatouage.
Tout à fait, tout à fait. Ben, c'est grâce à lui que le tatouage aujourd'hui est considéré comme des œuvres d'art et des tatouages et non pas comme un signe de gang ou autre. Voilà.
Et qui a régulé beaucoup hein, l'hygiène autour du tatouage. C'était important aussi dans la tête des parents, hein, je tiens à le souligner, parce qu'il y avait aussi une idée de maladie pouvant être véhiculée à travers des aiguilles qu'on utilisait plusieurs fois. Or, Tintin, ce tatoueur dont vous parlez, a aussi créé un syndicat qui permet aussi, en tout cas, une association, en tout cas, une structure qui permet de légiférer et donc de rendre le tatouage accessible à tous et puis surtout que ce soit un tatouage hygiéniquement propre, en fait.
Tout à fait, il a créé le SNAT, le syndicat des artistes tatoueurs. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a couvert pratiquement tout le corps.
Oui. Voilà. Alors aujourd'hui, vous en avez combien, rappelez-moi, de tatouages ?
C'est pas facile à compter. J'ai les deux bras pleins, j'ai un dos, j'ai une partie d'une jambe, j'en ai un peu sur le torse. c'est pas facile à compter. On pourrait peut-être compter ça en heures. Je devrais avoir, je pense, une bonne quarantaine d'heures.
Ah oui, 40, d'accord.
50 heures peut-être.
Ombline.
Oui, vous disiez donc, Mario, que votre père avait une petite idée en tête.
Alors mon père, bizarrement, a l'idée de se faire un tatouage. Voilà, donc mais ça fait 2 ans maintenant que l'idée a commencé à mûrir. Et bon, on attend qu'il franchisse le pas.
Et à votre avis, c'est pour quand ?
Bah, je ne sais pas trop. Je pense pas cet été, mais je pense plutôt septembre-octobre.
C'est quand même une sacrée avancée, non ? Ça.
Ah bah oui. Pour une personne qui ne supportait pas le tatouage sur les autres, se faire tatouer, c'est quand même quelque chose de très beau à mes yeux.
Bah, ouais. Alors, avec le recul, Mario, aujourd'hui, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez mis tant de temps à dire à votre père que vous étiez tatoué ?
Parce que j'avais énormément peur de lui faire du mal, et puis voilà, ça c'était sur la fin, mais quand j'étais jeune, c'était la peur du père, quoi.
Ouais. Mais voilà. Vous aviez peur de quoi? Vous aviez peur de le décevoir en même temps, voilà. Est-ce que c'était un père sévère qui aurait pu vous, je sais pas, vous mettre une correction s'il avait découvert cela?
Quand j'étais ado, oui. Oui, quand j'étais ado, c'est certain.
D'accord. Bon, aujourd'hui en tout cas, tout le monde est tatoué, Mario. Et votre père se prépare à faire sa première œuvre d'art. Donc tout est bien qui finit bien finalement.
Voilà. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas lui avoir dit avant, quoi.
Bon, mais écoutez...
J'ai loupé de belles choses avec lui. J'arrête plus d'aller en convention avec lui. J'arrête de faire plein de choses avec lui. C'est vraiment dommage. Je regrette.
Bon, mais écoutez, au moins, vous avez encore du temps. Vous avez la chance d'avoir votre papa encore. On écoutait Maggie dans la première partie de cette émission qui culpabilisait beaucoup, et on voyait combien elle nourrissait de regrets de ne pas avoir parlé à sa mère de sa consommation, de son addiction au tabac. Vous, au moins, vous l'avez fait, Mario, et je vous en félicite, parce que tout le monde doit beaucoup mieux se sentir en sachant que le tatouage est une œuvre d'art pour tout le monde. Merci beaucoup pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans un instant, nous allons accueillir Jérémy. Son père ne sait pas qu'il vit avec un homme et il a l'impression qu'il y a encore beaucoup de non-dits sur ce sujet.
Europe 1. Ce que vient de raconter Mario, son histoire, ça vous parle? On vous écoute au 39-21. Vous avez caché des tatouages, une relation amoureuse à vos parents? Écrivez-nous via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous n'arrivez pas à avouer à vos parents que vous fumez, que vous êtes tatoué, que vous avez perdu votre emploi, que cachez-vous? À vos parents, vous en parlez au 39-21 avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Jérémy. Bonjour Jérémy, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Jérémy?
Alors, j'ai 28 ans et je vous appelle de Paris.
D'accord. Alors vous dites que vous avez fait un coming out assez tardif, et d'abord à vous-même. Expliquez-moi ce que vous entendez par là.
Oui, assez tardif, puisque c'était... je devais avoir 25 ans. C'est ça que je fais vrai quand j'ai eu 25 ans, donc quand j'ai passé un peu l'âge fatidique du quart de siècle. Donc c'était... je pense que ça m'a un peu fait bouger. Oui, en fait, simplement, je me suis un peu éloigné de ma famille et de mes amis qui étaient dans ma ville d'origine, et en arrivant sur Paris. Et donc voilà, je sais pas, je pense que j'ai pris un peu de recul malgré tout, et que je me suis dit pourquoi pas, en fait, pourquoi me cacher ça alors que je l'ai peut-être finalement toujours su au fond de moi, quoi.
Mmh. En tout cas, vous dites que le fait de se construire une vie ailleurs, et aujourd'hui particulièrement à Paris, vous a aidé à assumer qui vous étiez. Donc vous êtes découvert cette sexualité aujourd'hui. Lorsque vous dites que vous êtes fait un coming out à vous-même, c'est que vous êtes vraiment en phase avec vous-même aujourd'hui.
C'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, avant ce coming out à moi-même, si je peux dire, c'était je le savais, mais sans trop l'accepter. J'étais en couple avec une femme, je sais pas pourquoi, en fait, aujourd'hui, j'arrive pas forcément à l'expliquer, hein, mais je pense qu'après, le fait de m'écarter un peu de mon cocon familial et de mes amis de longue date aussi, et de repartir un peu de zéro dans une ville que je connaissais pas,
oui.
Je pense que ça a un peu aidé, quoi.
Oui, ça vous a mis face à vous-même. Et puis l'important, j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui vous soyez OK avec vous. C'est surtout ça, le plus important, c'est cela. Vous avez rapidement dit à votre mère que vous étiez en couple avec un homme aujourd'hui. Comment a-t-elle réagi?
Plutôt bien, en fait. C'est un peu ce que j'avais imaginé aussi, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais mon coming out, en fait, j'ai eu mon premier copain, et donc à partir de là, j'en ai parlé à ma mère, qui est avec qui je suis assez proche au final.
Oui.
Et donc elle a réagi plutôt bien. J'ai juste dit je suis en couple, par contre avec un garçon, et puis ça s'est fait comme ça. Donc non, il n'y a pas eu de problème particulier par rapport à ça, quoi.
Ah, ça a dû être un réel soulagement pour vous que d'abord votre mère réagisse comme ça.
Ouais, complètement. Complètement. Mmh. Enfin, je l'avais imaginé comme ça, c'est-à-dire que voilà, je sais que ma mère, mes parents sont pas vieux jeu sur ça. Je me suis dit, je pense pas qu'il y aura de problème. Maintenant, en plus, j'ai ma vie sur Paris. Donc, en soi, bon, c'est annexe, quoi. Enfin, pour moi, je le voyais comme ça.
Alors, on a eu dans cette émission deux témoignages. Le premier, celui de Maggie, qui regrettait profondément de ne pas avoir parlé à sa mère de son vivant, de son addiction au tabac. Et puis, on a eu ensuite Mario, fan de tatouage, qui a passé plus de 40 heures à se faire tatouer, qui a fini par prendre son courage à deux mains et le dire à son père. Aujourd'hui, vous, seule votre mère est au courant et votre père ne sait pas que vous vivez en couple avec un homme. Pourquoi ne lui avez-vous jamais dit?
Tout simplement parce que on m'a jamais posé la question. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas la même relation avec mon père et ma mère. Enfin, mes parents sont divorcés depuis assez longtemps. Enfin, j'avais 11 ans, donc ça date un peu.
Oui.
Et donc voilà, on va dire que je suis beaucoup plus enclin naturellement à parler de mes relations amoureuses avec ma mère. Contrairement à ce que je peux faire avec mon père. Donc finalement. Pour moi, ça me semble pas du tout naturel de lui dire, papa, en fait, je suis gay, quoi. Enfin, pour moi,
Oui.
c'est pas quelque chose qu'on a à dire.
Oui.
C'est vraiment, ça serait plutôt suite à une question. Enfin, voilà. Surtout que là, j'ai déménagé récemment avec mon copain, donc j'ai aménagé avec lui.
Oui.
Donc, ça aurait pu être le moment de poser des questions.
Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous porte à vous empêcher, hein, en tout cas à ne rien dire. Est-ce que votre père a déjà fait des réflexions qui peuvent vous porter à croire qu'il recevra mal cette nouvelle? Est-ce que voilà, il vous a montré une sorte d'hostilité à cette sécurité?
Je pense pas. En fait, je sais pas trop parce que parfois, en même temps, c'est un peu compliqué de dire, de la relation qu'on peut avoir entre une personne qu'on connaît et
Oui.
quand c'est nos enfants, je pense que c'est assez différent. Je sais pas trop la réaction qu'il pourrait avoir. Moi, je pense pas honnêtement que ça poserait un problème. Maintenant, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est que j'ai l'impression que à peu près au courant, mais qui veut pas le savoir.
D'accord. Restez en ligne avec nous, Jérémy. Nous allons continuer à parler de votre histoire et de ces non-dits qui semblent exister encore aujourd'hui avec votre père, même si je sens que vous n'êtes pas vraiment loin pour lui parler de l'homme qui partage votre vie aujourd'hui. Vous restez avec nous, on en parle dans quelques instants.
Europe 1. Jusqu'à 16h, nous parlons de ces secrets que nous n'avouons pas à nos parents, ces non-dits. Qu'est-ce que vous cachez et pourquoi le faites-vous? Vous nous racontez votre histoire au 39-21. Qu'est-ce que vous cachez encore, une fois adulte, à vos parents? Vous continuez de discuter avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes toujours en ligne avec Jérémy qui nous expliquait bien quand il est arrivé à Paris, avoir découvert sa sexualité dans cette nouvelle ville, cette nouvelle vie qui était la sienne et partager sa vie avec un compagnon depuis quelques mois et puis très récemment s'être installé avec ce compagnon. Jérémy, vous avez emménagé avec votre conjoint, vous avez dit à votre père que vous vous installiez avec quelqu'un sans apporter plus de précision. Cela vous gêne d'avoir à lui dire que votre conjoint est un homme?
Non. Je pense pas, c'est juste que j'attends vraiment d'avoir
l'occasion.
enfin, qu'il me pose la question, ouais, qu'il me dise en fait au moment où je lui ai dit bah oui, en fait, je déménage parce que je me mets en couple. Il m'a pas dit, m'a pas posé de questions sur la personne en tout cas. Voilà, donc c'est surtout ça.
Est-ce que vous pensez que c'est un secret de Polichinelle, en fait, que votre père. Vous l'évoquiez tout à l'heure, que vous pensez que votre père sait, mais ne vous en parle pas.
Je sais pas. Je pense que ça peut l'être. Ça peut l'être, mais voilà, je pense que ça va finir par se faire quand je le verrai je pense en vrai, enfin en physique.
Oui.
Mais voilà, je pense que ce sera plutôt dans ce cas-là.
Je me tourne vers vous, Catherine Zobouillant. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et directrice du centre Cogitos à Paris. On écoute Jérémy. Est-il indispensable de tout dire à ses parents? Peut-on continuer comme lui à ne rien dire et puis attendre bien l'occasion, hein, la meilleure occasion pour révéler bien ce qu'il a envie de dire à son père, visiblement, mais voilà, l'occasion ne s'est pas encore présentée.
Je pense que comme cacher, tout dire, c'est un peu le même processus aussi, c'est-à-dire c'est maintenir une dépendance, un lien, une dépendance affective. Je pense qu'il y a des choses quand même, des choses importantes qui sont à révéler de soi et qui sont importantes à révéler aux parents. Et dans le cas de Jérémy, sa vie affective, son choix de vivre avec un homme est quand même une chose assez essentielle. Voilà, il faut qu'il trouve confiance en lui, il faut aussi qu'il trouve le moment, qu'il sente ce moment pour révéler ça à son père, parce que ça parle en tout cas d'une chose assez essentielle pour lui, c'est-à-dire son couple.
Oui, Jérémy, est-ce que ça vous empoisonne un peu la vie de ne pas révéler cela à votre père ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous pèse ? Parce que vous semblez dire que, voilà, d'abord, il est plus facile pour une mère d'accepter l'homosexualité qu'un père. Mais on sent que c'est quelque chose qui vous pèse. Donc, pourquoi en fait, ne pas décider de le dire le plus vite possible ?
Parce que, en fait, je ne me vois pas l'appeler pour lui dire. Tout simplement parce que je l'appelle, on n'a pas une relation hyper proche.
Oui.
Même si on n'a aucun conflit, enfin, on n'a pas forcément de problématique, mais en tout cas, je me vois pas l'appeler pour lui dire. Je pense que c'est, je sais pas, c'est quelque chose que je considère ne pas avoir à dire de cette manière-là.
Oui, pour vous, il y a quelque chose d'absurde, hein, on l'entend,
ouais,
dans l'idée de. D'avouer son homosexualité, c'est quelque chose que voilà, qu'on n'est pas, que vous ne vous sentez pas obligé de faire, parce que c'est vrai que ça a un côté absurde de dire papa, voilà, je suis amoureux d'un homme.
Voilà.
C'est comme dire papa, je suis amoureux d'une fille. C'est la
c'est
même chose.
Comme ça.
Ouais, non, mais c'est la réalité. Et votre compagnon, vous en avez parlé avec lui ? Est-ce que lui a fait son coming out ? Je n'aime pas beaucoup cette expression, mais bon, c'est celle-là qu'on emploie. Il en a parlé à ses parents déjà ?
Oui, son parcours est complètement différent, puisque on va dire que lui a toujours, donc il a pas fait vraiment de coming out, puisqu'il a toujours été gay entre guillemets, dans le sens où depuis son adolescence, enfin il a toujours, il a tout de suite fait son choix en fait, en disant ok, je suis gay, donc mes parents le savent quoi, enfin ses parents l'ont su tout de suite en fait.
Mais est-ce que lui n'aurait pas envie justement que vos parents soient au courant ? Vous en avez parlé avec lui ?
Oui, j'en ai parlé avec lui, mais non, enfin de son côté, je pense qu'il a pas forcément d'urgence, il ne presse pas sur ça. Voilà, je pense pas que ce soit quelque chose qui le pèse aujourd'hui, enfin.
Ça ne pose pas de problème pour lui en tout cas. Quelle est la situation dans le meilleur des cas pour vous, si vous l'imaginiez, quelle serait la situation idéale pour que vous puissiez en parler avec votre père, ou qu'il comprenne?
Je pense que la situation ce sera quand je le verrai prochainement, et qu'il me posera des questions à propos de mon appartement, ou enfin en tout cas de mon déménagement, ou là ce sera beaucoup plus simple, parce qu'à un moment donné, je pense que s'il sait que j'ai déménagé parce que je suis en couple, il va bien se dire que je suis pas en couple depuis 2 mois.
Oui.
Et donc, c'est quelque chose d'assez sérieux. Et voilà, je pense que s'il ne pose pas de questions sur ça, je vais finir par, de toute façon, essayer de tirer la conversation dans ce sens-là, quoi.
Oui, vous misez en tout cas sur l'évolution normale de votre relation, et le fait qu'à un moment, votre père soit un peu plus curieux et que vous puissiez lui révéler l'existence de votre compagnon. Prenez votre temps, Jérémy. C'est vrai que ça a quelque chose d'un peu absurde, mais je pense que vous serez soulagé le jour où votre père sera, comme votre mère, au courant de cet homme qui partage votre vie et votre amour. Merci en tout cas d'avoir témoigné cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci pour votre témoignage. Merci aussi à Maggie et à Mario de nous avoir raconté leur histoire. Merci à Catherine Zouboyan pour ses éclairages. Les parents sont ceux à qui l'on a dû rendre des comptes et qui ont parfois fait preuve d'autorité pendant notre enfance et puis ensuite dans notre adolescence. adolescence. Mais une fois adulte et indépendant, ne plus se soumettre à leurs règles et se défaire de leurs croyances n'est pas une transgression. On l'aura compris, il est important de respecter ses envies, de suivre ses passions et d'être maître de ses choix pour être en phase avec soi-même. Alors si vous avez du mal à avouer quelque chose à vos parents, mais que vous en ressentez vraiment le besoin, ne vous perdez pas dans le mensonge et n'oubliez pas que la communication reste souvent le meilleur moyen de se libérer d'un poids. Vous pouvez continuer à en parler sur les réseaux sociaux.
Oui, cet après-midi, tout le week-end, n'hésitez pas sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1 et Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Lundi, nous parlerons ensemble des traditions auxquelles il est parfois difficile d'échapper. Alors, si les traditions familiales, culturelles vous étouffent, si vous ne vous reconnaissez pas dans les traditions qui vous sont imposées, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Merci à Katia Maxime et à Angèle Châtelier, assistée d'Armel Thiberge à l'éditorial cette semaine, et à l'excellent Boris Pachinski à la réalisation. Et puis, moi, comme d'habitude, j'ai été ravi de passer cette heure avec vous. Pour ceux qui sont ce week-end dans la région d'Évreux, dans l'heure, eh bien, je leur donne rendez-vous dimanche aux alentours de 13-14 heures où se déroule un concert avec plus de 1000 musiciens où je chanterai un titre des Black Maria parmi d'autres standards du rock. Ça s'appelle We Love Rock and Roll. C'est à Évreux le dimanche 21 avec plus de 1000 musiciens. Donc écoutez, je serai là et je serai ravi de vous voir.